Patriarca, 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 patri, patriarca, patri.
Le micro en main, que mon message parvienne.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butch strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir. Vous écoutez Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Et ce soir, on va se pencher un peu sur défaire les mythes par rapport à la préhistoire. En effet, ben, la préhistoire et la référence à la préhistoire, c'est couramment utilisé pour justifier des inégalités sociales actuelles et des rapports de domination, ben, que ce soit au niveau du genre, des rapports hommes-femmes, mais aussi pour justifier des théories, des propos racistes ou un système hiérarchique de classe. Et bah, par exemple, je me souviens d'un micro-trottoir où il y avait un type qui nous expliquait très sérieusement que les femmes, elles n'auraient pas le sens de l'orientation parce qu'à la préhistoire, bah, elles restaient à la caverne pendant que les hommes chassaient le mammouth. Du coup, les hommes auraient développé un sens de l'orientation et pas les femmes. Et comme ça, ça peut nous paraître très stupide, mais c'est quand même couramment utilisé par les gens. Voilà ce genre de référence à la préhistoire pour justifier des choses comme ça. Et bah, du coup, ce soir, on a invité Laetoli, préhistorienne et militante radicale féministe, pour discuter un peu, défaire justement ces projections, ces mythes par rapport à la préhistoire, et voir c'est quoi la réalité et c'est quoi la réalité des connaissances qu'on a sur qu'est-ce qui se passait clairement. Du coup, Laetoli, toi, t'en es venue comment à travailler bah, sur ce thème, entre autres, des rapports genrés dans la préhistoire?
Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, je voulais remercier l'équipe de Dégenré de m'avoir invité à participer sur ce thème. C'est cool, merci. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à travailler sur ce thème? Déjà, j'étais militante avant d'être archéologue. Et dans mes études d'archéologie, et plus particulièrement de préhistoire, j'ai été marquée par l'invisibilité des femmes. C'est plusieurs constats qui m'ont poussée à travailler sur le genre en préhistoire. D'abord, ce constat d'invisibilité des femmes, qui pourtant se révèle être plutôt contradictoire, parce que les femmes préhistoriques sont absentes de toute théorie d'évolution ou luminisation, en tout cas en tant qu'individu avec une existence réelle. Et pourtant, elles sont régulièrement sollicitées dans des théories, des interprétations parfois douteuses. Et du coup, c'est vraiment cet aspect contradictoire de leur existence en préhistoire qui m'a poussée à travailler sur ce thème. Et ma volonté, c'est donc de leur rendre une densité réelle d'existence au cours des derniers millénaires. Et d'essayer de démontrer de quelle façon elles ont pu participer à l'histoire de l'humanité. Voilà. Et que l'homme préhistorique arrête de devenir la seule expression pour parler des individus en préhistoire. Expression, à mon sens, extrêmement genrée, masculin et sexuée, mâle. Voilà. Donc, je travaille pour la réhabilitation des femmes en préhistoire.
Ok. Eh bien, merci à toi d'être venu. Et pour commencer, la préhistoire, c'est quand même assez vaste. Hein. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus de quelle période on va parler, comment ça se découpe, etc.
Alors, effectivement, aujourd'hui, on va discuter un peu de préhistoire. On va essayer de définir très très rapidement deux, trois petites choses. D'abord, la préhistoire, ça désigne généralement deux choses. À la fois la période chronologique de la préhistoire, avec le paléolithique, etc. à l'intérieur. C'est la période la plus longue de l'histoire de l'humanité. Mais à la fois, la préhistoire désigne aussi la science, la discipline qui étudie cette période. Du coup, c'est un petit peu mal fait, mais ça fait que, voilà, que c'est le même mot. Donc, il faut parfois être vigilant. Et donc, c'est la période la plus longue de l'histoire de l'humanité. Elle s'étend sur à peu près... Alors, tous les chiffres sont à relativiser, etc. Mais elle s'étend à peu près, on va dire, sur... à partir de 6-7 millions d'années, jusqu'à, en fonction des endroits du globe, à peu près donc 7 millions, jusqu'à moins 10 000 pour le Moyen-Orient, Proche-Orient. Et plus on se rapproche vers l'Europe, et ça va à peu près jusqu'à moins 5 000 pour l'Europe. Donc voilà, c'est une très très grande période qui se divise en trois sous-périodes. On a le paléolithique inférieur, moyen et supérieur. On ne va pas rentrer dans le détail. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au paléolithique supérieur, qui commence à peu près vers moins 40 000. C'est une période qui est extrêmement riche pour nous, pour les archéologues. À la fois, c'est la mieux documentée. On a le plus de sites de référence sur ces périodes, ce qui nous permet d'avoir des études plus approfondies. C'est une période durant laquelle, contrairement au paléolithique inférieur et moyen, c'est une période durant laquelle il y a énormément d'innovations biologiques, sociales et culturelles. À la fois, c'est l'avènement de l'homme moderne, de Sapiens Sapiens, sur tout le paléosup. Et en même temps, c'est aussi, alors juste pour recadrer, c'est quand même des groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent en groupe, qui sont nomades. Et pour le coup, en préhistoire, on est encore dans des sociétés égalitaires sans chef. C'est une période aussi durant laquelle on voit un équipement, des outils, des armes de chasse, etc., extrêmement variés et extrêmement techniques. Et surtout, c'est une période durant laquelle l'art et la mort font son apparition. C'est extrêmement important. Ce sont des considérations qui sont, pour une fois, pour ces périodes, pas directement liées à la survie du groupe. On commence à faire des représentations esthétiques, artistiques. Vous connaissez sûrement toutes les grottes ornées type Lascaux. Mais aussi, c'est l'apparition de la mort. On commence à enterrer ces morts et avoir une considération métaphysique sur l'univers, le monde, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus du paléolithique supérieur, parce que c'est plus documenté et qu'en tout cas, les rapports genrés peuvent être un petit peu plus étudiés contrairement à d'autres périodes.
Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet et un peu les projections courantes qui sont faites sur la préhistoire et comment elles sont utilisées et à quelle fin, on va écouter un morceau. Du coup, tu as choisi les différentes musiques qu'on va écouter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter le premier morceau ?
Ouais, effectivement, j'ai essayé de faire un choix de musique qui rentrait dans le thème et par rapport aussi à mes goûts musicaux. Du coup, là, je vous propose un petit morceau de Medine. Effectivement, c'est un rappeur. Maintenant, Il est assez intéressant pour les références historiques qu'il place dans ses morceaux et pour ses analyses un peu politiques entre la race et la classe. Et là, précisément, c'est quand même un morceau qui parle d'archéologie. Voilà.
Archéologue, artisan, artificier, archétype, arpenteur des dossiers archivés. Artiste engagé, arrivant des quartiers nord. Argenté, car ils ont pillé notre or. L'archange Gabriel retient notre argumentaire. Mais d'Afrique plus qu'armée, armure d'Arabien de Spanter. Argotique, arabophone, arithmétique. Au parcours d'Arafat, musique archéologique. Don't panic tape. Et le passé ressurgit après fouille. On a pris pour le son le grand Ramsès et sa dépouille. Les assassins sont dans les tours et les tours des gringoles. 11-09, c'est la sortie de l'école. Déjà parlé de ces choses, mais je le répéterai à vie. Le WT, c'est un tournant tard de nos vies. Ne comprends pas les regards dans les métros, dans les gares. L'aéroport de Kennedy m'a mis sur liste noire, noire. Comme le tableau que je dresse, le drapeau de Guantanamo pour potentiel adresse. Agressé car on ne refait pas l'histoire. Mais décolle les souvenirs du fin fond de nos mémoires. Alors j'écris, ne le dis pas, mais le cri revendique. Au même titre l'Allemagne de Conakry. On a frappé du poing sur la table du rap. Et Médine est durable en période anti-arabe. Anti-électorale sont les voix d'aborigènes. Et quand on tend le miroir à la jeunesse sarkozienne, ils le brisent sur nos têtes et refusent notre identité. À croire que leur ancêtre l'avait prémédité. Et c'est ainsi qu'on assiste aux guerres de monde. Construction après les tapis de bombes. Certains le vivent, d'autres l'écrivent, le racontent ou le chantent. Moi j'ai choisi de le rappeler pour les générations changeantes. C'est ma musique, sûrement dépourvue de logique, mais à la fois pleine de sens et d'études archéologiques. Hors des clichés, stylo souleveur de rochers, révèle la vérité cachée, sans du papier arraché. Archéologue, artisan, artificier, archétype, arpenteur des dossiers archivés. Artiste engagé, arrivant des quartiers nord. Argenté car ils ont pillé notre or. L'archange Gabriel retient notre argumentaire. Mais d'Afrique plus qu'armée, armure d'Arabien de Spanter. Argotique, arabophone, arithmétique. Au parcours d'Arafat, musique archéologique. Deuxième couplet qui vient confirmer le premier. Comme un coup de marteau, soit un clou mal enfoncé. Rapparition d'MC en voie de disparition. Rap narration vient chiffrer les réparations. Médine, pour véritable patronyme. J'aurais pu très bien prendre un autre nom pour pseudonyme. Car c'est l'an 2000 et son bug, archéologue sur Skyblock. Mon prénom résonne dans les livres et dans les maisons de Scud. Dans les studios, les frères me donnent la réplique. Mes couplets sont réglés comme du papier à musique. On fait les choses à l'extrême pour arracher le galon. Mais le succès d'estime n'a jamais rempli le biberon. Lorsque les autres ont faim, on part chasser le gibier. N'attend pas le déluge, marche où tout le monde n'a pas pied. Indépendant, désintéressé du mouvement. Made in Records exécute le rap au moindre mouvement. Archéologue, artisan, artificier, archétype, arpenteur des dossiers archivés. Artiste engagé, arrivant des quartiers nord. Argenté car ils ont pillé notre or. L'archange Gabriel retient notre argumentaire. Mais d'Afrique plus qu'armée, armure d'Arabien de Spanter. Argotique, arabophone, arithmétique. Au parcours d'Arafat, musique archéologique. Archéologue, artisan, artificier, archétype, arpenteur des dossiers archivés. Artiste engagé, arrivant des quartiers nord. Argenté car ils ont pillé notre or. L'archange Gabriel retient notre argumentaire. Mais d'Afrique plus qu'armée, armure d'Arabien de Spanter. Argotique, arabophone, arithmétique. Au parcours d'Arafat, musique archéologique. Le rap français ne gère pas l'indépendance. Aussi vrai que le junkie ne gère pas sa dépendance. Dean Records, c'est le label au répondant. Hors des tendances, obligé d'être indépendant.
Vous venez d'écouter Médine sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope. Alors, nous sommes toujours avec Laetoli qui nous parle du genre en préhistoire. Alors, à l'école primaire, on nous a tous et toutes appris que l'homme descend du singe. Alors, on a tout en tête cette frise où l'on voit un singe à quatre pattes qui va se redresser pour finalement devenir un bel... homme blond et grand et blanc.
Exactement.
Et du coup, on peut se dire que ça peut être le lieu d'interprétation raciste. Tu peux nous en dire plus ?
Alors, effectivement, c'est bien tout le problème de la préhistoire, de la science préhistorique, à savoir qu'elle a été fortement influencée par des disciplines extérieures, notamment l'anthropologie sociale et en particulier l'anthropologie évolutionniste du 19e jusqu'à même la moitié du 20e, et parfois c'est encore en cours. Alors, tout le monde a en tête c'est pas vraiment une frise, mais cette espèce de schéma linéaire évolutionniste de l'évolution de l'homme et de la femme. Et effectivement, on voit un singe poilu se redresser petit à petit. Entre les deux, on va avoir un noir intercalé, plus ou moins poilu, bien foncé, limite avec des dreads sur la tête. Et ensuite, on arrive à une vision de l'homme blanc, droit, redressé, imberbe, grand, fort et fier. Alors effectivement, c'est un très très vieux schéma qui n'est plus du tout d'actualité, qu'on n'utilise absolument pas, qui n'a rien de scientifique et qu'il faut absolument s'enlever de la tête. C'est par la diffusion de ce type de théorie raciste. C'est toujours ce type de théorie raciste qu'on a en tête, en fait. Et du coup, pour essayer de donner un petit exemple qui va parler à tout le monde, l'anthropologie évolutionniste, donc, qui a influencé la préhistoire et qui s'est permis de proposer des espèces de théories universelles de l'histoire de l'humanité, a proposé donc des espèces de classification de l'humanité en différents âges. De mémoire, comme ça, on a l'âge sauvage, l'âge barbare et l'âge civilisé. Et effectivement, à l'intérieur de ces âges, on classifiait les populations en fonction du degré technique qu'ils avaient et donc en fonction de la notion de progrès. Alors effectivement, toutes les notions qu'on choisissait, les critères qu'on choisissait de garder pour classifier les sociétés, c'était effectivement des critères très, très européens, des critères qui ne pouvaient absolument pas se calquer aux autres régions du monde. Du coup, on se retrouve avec une chronologie qui est extrêmement européano-centrée, qui exclut tout simplement de l'analyse scientifique pas mal d'autres régions du monde. Alors non, on ne descend pas du singe. On n'est jamais descendu du singe. Par contre, c'est vrai que les paléontologues, pendant très longtemps, ont été à la recherche du chaînon manquant, et le sont pour certains encore. Maintenant, on est plus dans des représentations au niveau de la paléontologie en termes de mosaïque, de culture, de groupe, etc., et d'échange, et non plus dans un espèce de schéma comme ça, très linéaire, où tout est à la suite de l'autre. Et donc, non, on ne descend pas du singe, mais vraisemblablement, on aurait un ancêtre commun, un ancêtre arboricole commun. Maintenant, il faut prendre vraiment avec des pincettes toutes les découvertes de fossiles humains, parce que non seulement les découvertes chamboulent systématiquement tous les schémas évolutifs. Et voilà. Du coup, quand on prend par exemple le discours de Dakar de Sarkozy, moi à mon sens, en tout cas en tant qu'archéologue, je le sens directement inspiré de tous ces travaux anthropologiques, évolutionnistes et archéologiques. Parler de l'homme noir qui n'aurait pas d'histoire, utiliser ce type de référence, c'est concrètement une référence directe à l'archéologie. Pour les archéologues européens, on rentre dans les périodes historiques à partir du moment où on invente l'écriture. Donc, pour des peuples, effectivement, qui fonctionnent sans écriture, non seulement ils sont encore, pour l'archéologie française, à des phases, à des stades préhistoriques, et ils ne pourront jamais en sortir dans la mesure où les critères ne sont pas adaptés à... Voilà. Donc, les groupes à tradition orale, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ils avaient une histoire, et une préhistoire, évidemment.
Et du coup, pour essayer de comprendre comment vivaient les groupes humains en préhistoire, les anthropologues se tournent souvent vers des sociétés dites primitives qui seraient plus proches de l'animal que nous autres occidentaux.
Alors c'est vrai que tout ce qui est comparaison ethnographique avec les peuples de chasseurs-cueilleurs actuels a été régulièrement utilisé en préhistoire et en proto-histoire. Alors maintenant, c'est des comparaisons qu'il faut manier très prudemment. on peut très vite tomber dans des préjugés racistes vis-à-vis de ces groupes qui n'auraient pas encore atteint la modernité, parce que c'est un peu comme ça quand même que c'est encore primitif. Donc on a pour illustrer aux gens qui nous écoutent, je pense que par exemple l'exemple de Sarah Bartman, la Vénus qu'on a très longtemps appelée la Vénus Hottentot, est un bon exemple de toutes ces références ethnographiques qui peuvent aller extrêmement loin. C'est une femme qu'on a ramenée d'Afrique du Sud et qui a extrêmement fasciné toutes les sciences de l'évolution de l'époque parce qu'elle avait un corps, soi-disant, une morphologie corporelle qui ressemblait aux statuettes, aux figurations féminines qu'on a retrouvées en fouille au début du siècle. Des statuettes de femmes aux formes arrondies qu'on a retrouvées dans le sud-ouest de la France. Du coup, ces statuettes, quand on les a découvertes au XIXe siècle, elles ont extrêmement surpris. C'est la première fois qu'on attribue une intention cognitive aux humains préhistoriques. Du coup, ces statuettes, on les a appelées les Vénus, en référence à l'Antiquité classique et à l'art de l'Antiquité classique, ce qui est déjà en soi une forme d'interprétation. Et donc, cette morphologie féminine a été interprétée comme étant très, très, très naturaliste, à savoir, on a dit que les femmes paléolithiques ressemblaient à ces statuettes, donc avaient ces seins abondants, ces fesses abondantes, ces hanches abondantes. Et donc, on a cherché dans les populations actuelles, et donc en Afrique du Sud, chez les Bushmen... on a dit que les Bushmen étaient une sorte d'hommes fossiles, qu'ils avaient dans leur morphologie des survivances, des morphologies préhistoriques. Et Sarah Bartman a donc été amenée à Londres, à Paris, etc., pour être exposée, pour être mesurée, pour être plein de choses horribles qu'on ne va pas forcément décrire ici. Quoi qu'il en soit, son corps, à sa mort, a subi une vivisection et non une autopsie, ce qu'on fait donc pour les animaux. Son corps a ensuite été moulé, notamment ses parties génitales. Pendant des années, elle a été exposée et on a finalement fini par la rendre à la demande de Nelson Mandela en 2002 pour essayer quand même d'avoir un petit peu de conserver un peu d'intégrité humaine. Ce serait pas mal.
Alors, quand on essaie de se représenter... comment vivaient les hommes et les femmes au temps de la préhistoire? Quand on regarde des livres d'images, on voit le papa, la maman et les enfants autour du feu, le papa qui va chasser. Et oui, voilà, c'est ça, la famille mononucléaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et aussi, on justifie, par exemple, la violence des hommes comme étant issue d'un instinct qui serait issu de la préhistoire. Comme on peut voir dans le documentaire qui s'appelle L'Odyssée de l'espèce, que beaucoup de personnes ont vu, où l'on voit représenter un viol, comme si les temps préhistoriques pouvaient justifier des comportements d'aujourd'hui.
Alors, effectivement, quand on regarde tous les scénarios qui ont été proposés d'hominisation, que ce soit sur les formes de la famille, que ce soit sur le couple, que ce soit sur l'exclusivité sexuelle, ou que ce soit sur l'hétérosexualité comme forme de réalisation sexuelle, effectivement, on se retrouve face à des scénarios qui sont extrêmement conformes à ce qu'on peut observer aujourd'hui. On se rend compte que les préhistoriens, les anthropologues, les paléontologues, etc., sont extrêmement influencés par leur culture, leur milieu, leur époque, leur région. Et on finit par projeter leur cadre de pensée dans les théories qu'ils ont proposées. Donc effectivement, il y a beaucoup de théories qui ont permis de faire remonter au paléolithique inférieur, par exemple, autour des premiers sites archéo qu'on retrouve, autour de 5 millions d'années, par exemple, on arrive à faire remonter aussi loin, enfin, ils arrivent à faire remonter aussi loin l'origine du couple, de la famille, etc. Alors, effectivement, c'est à nuancer, c'est plus qu'à nuancer, c'est à oublier, dans la mesure où ce type d'interprétation révèle plus de l'imaginaire que des preuves archéologiques, et que pour le moment, très peu de choses nous permettent d'attester ce genre de configuration sociale pour la préhistoire, voire et même pour la préhistoire la plus ancienne. Pour revenir sur l'Odyssée de l'espèce, c'est effectivement aussi un docu-fiction. Je l'ai aussi vu. Moi, c'est un peu le docu-fiction de l'éducation nationale en ce moment sur les questions de préhistoire. Le directeur scientifique, c'est Yves Coppens, que beaucoup de gens connaissent. C'est un paléontologue, c'est pas un préhistorien. Et effectivement, il y a une scène de viol préhistorique extrêmement banalisée dans ce film. C'est quand même un film qu'on diffuse aux enfants. C'est un film qui est passé sur France Télévisions et qui a été vu par des millions et des millions de gens. Il y a une suite aussi d'ailleurs à ce docu-fiction là, et effectivement dans ce docu on voit que c'est l'homme l'homme avec un petit H, que ce soit Néandertal ou Sapiens, qui fabrique l'arme, qui fabrique les armes, qui chasse, qui acquiert la bipédie. Bon, il fait tout. Il est quand même à la base de toutes les innovations sociales, biologiques et culturelles de ces périodes. Et la femme, effectivement, elle est complètement absente, à part par son anatomie et ses capacités reproductives. À chaque fois, si on l'illustre, c'est uniquement par le biais de la procréation. Et du coup, en ce qui concerne le viol, évidemment, il ne peut pas être attesté pour la préhistoire. Ce n'est pas non plus une forme, le viol n'est pas non plus une forme d'évolution sociale, parce que c'est un peu ce qui est écrit, c'est un peu ce qui est figuré dans le documentaire. Juste pour faire très rapide, on est dans un groupe du paléolithique supérieur, il me semble. Il y a un chef de groupe, ça c'est déjà aussi une forme d'interprétation. Et donc le frère qui veut prendre la place du chef tue le chef, et pour effectivement avoir du pouvoir, on le voit attraper la compagne du chef par les cheveux, l'amener au fond de la grotte, et on l'entend se faire violer, hurler, elle hurle, et c'est une scène qui dure vraiment quelques secondes, et on voit les enfants autour du feu comme ça en train de jouer, de papoter, à côté ça taille du silex, là-bas ça grave sur des parois, et il y a une femme en arrière-plan qui se fait violer, voilà, et on passe à la scène d'après. Ce genre d'interprétation très subjective et personnelle des rapports entre les hommes et les femmes, pareil, encore une fois, je pense qu'on pourrait éviter ce genre d'interprétations qui ne sont vraiment pas attestées et qui, pire, ancrent dans les mentalités actuelles des violences sexuelles et qui sont à condamner.
Alors, tout à l'heure, tu vas nous parler un peu plus de la place des femmes dans ces sociétés. Mais en attendant, on va faire une petite pause musicale que tu vas nous présenter.
Ouais, voilà. J'ai choisi un morceau de Kazeh qui s'appelle « Apprends à te taire ». Et c'est un morceau que j'écoute très régulièrement quand je lis des horreurs ou que j'entends des horreurs sur pas mal de sujets.
D'être aussi pitoyable, ça me paraît impensable d'être autant inaudible. J'ai passé au crible tous tes textes sur ma table, et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible. Ta grammaire est instable, improbable et horrible. Ta diction dépasse le stade de l'inadmissible. Arrête les messages, illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton peura est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu joues l'invincible, le braqueur introuvable, le voleur invisible, le rappeur terrible, imbattable, incorruptible. T'es peu crédible et minable, c'est méprisable et risible. Ne sois pas susceptible, mais tu n'es pas formidable. Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable. Tu sais, bosser souvent est une chose honorable. Alors attaque tout doucement, commence par le Scrabble. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire s'il te plaît, ou apprends à te taire.
Quoi? Chez toi y'a pas le dictionnaire.
Allez, apprends à écrire s'il te plaît, ou apprends à te taire.
Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire.
Alors apprends à écrire s'il te plaît, ou apprends à te taire.
Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère.
Alors apprends à écrire s'il te plaît, ou apprends à te taire.
Oui, j'avoue qu'à l'écoute de ton titre, j'ai chopé la courante et pété une durite. T'as beau dire que c'est un hit, mais là faut que tu arrêtes. J'étouffe, j'ai l'impression d'avoir bouffé une arête. Les minettes du R&B avec leurs amourettes. Je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes. Autant m'ouvrir les veines, me faire sauter la tête, me cramer la plante des pieds avec des cigarettes. T'as sûrement du mérite, ou j'ignore ce que je rate, mais tu mérites. Et puis cette daube a été écrite à la hâte. Ce fond de teint va à ta robe favorite, mais en revanche n'espère vraiment plus rien de cette voix ingrate. Ceux qui disent le contraire ne sont que des hypocrites. Tu n'es pas prête, retourne à des activités concrètes. Je ne sais pas, acrobate, avocate ou marionnette. Je veux juste que tu dégages de mes pattes pour être honnête. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire s'il te plaît, ou apprends à te taire.
Quoi?
Chez toi, y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire. Moi, ténébreux, mal rasé, malheureux, méprisé d'après eux, et proche des miséreux. Pense à la guerre, à l'effet de serre, entre midi et deux. Pleure chez Michel Drucker d'un air con et mielleux. Adore toujours tout le monde face à la caméra. Derrière insulte tous les nouveaux artistes de scélérat. Mesdames et messieurs, veuillez célébrer la chanson française, vieille et décérébrée. Décroulant, encombrant, camé, encombré d'un public de mémé qui fait canva et macramé. Has-been à la peine que l'échec a puni, mais qui tentent tout de même leur chance aux États-Unis. Cessez les retours ratés, les textes formatés. Arrêtez la variété, la fameuse chanson de l'été. Et puis laissez tranquille tous les fantômes du passé. Claude François, Joe Dassin, putain, y'en a assez. J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire. Quoi? Chez toi, y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à te taire.
Tu veux chanter? C'est un projet qui est sûr, ça. T'es sûr de toi sur cette affaire? Pourquoi, par exemple, t'irais pas plutôt t'empaler sur une poutre, ou te pendre à un pylône, ou je sais pas, parler à une porte, ou chante, vas-y, chante, mais ferme la bouche. Ouais, chante en fermant la bouche, je te promets, c'est possible, je l'ai fait une fois, c'était il y a longtemps, mais vas-y, fais. Ha! Apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à taire. Apprends à écrire, s'il te plaît, ou apprends à taire.
Bonsoir, alors ce soir sur Dégenré, on parle de préhistoire et de genre. On vient un petit peu là d'aborder la question du racisme en préhistoire, comment la préhistoire en fait peut renforcer en fait le racisme, le cliché raciste, etc. Et puis maintenant, on va s'attaquer à un mythe bien ancré hein, chez tout le monde. Alors l'homme fort avec sa peau de bête et sa sagaie qui chasse le mammouth, Laetoli, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ?
Alors, c'est plutôt un mythe. En ce qui concerne l'homme préhistorique avec un petit H, on est un peu parti au début de la préhistoire, comme c'est une discipline qui est très très jeune, on est un petit peu parti d'une représentation donc, du singe, c'est ce qu'on a dit, et petit à petit, avec la découverte de plus en plus de sites, l'approfondissement de plusieurs études, on s'est donc rendu compte quand même que les hommes et les femmes préhistoriques n'étaient pas des sauvages, mais on a du coup eu l'excès inverse, à savoir de donner une image de l'homme conquérant, dominateur, qui a à la conquête du monde, de tous les climats extrêmement hostiles, qui a chassé les plus grands mammifères, qui a fabriqué les outils les plus perfectionnés pour soumettre son milieu et pouvoir le dominer et devenir la merveilleuse humanité que nous sommes devenus. C'est effectivement, maintenant les choses se relativisent un peu plus. Alors à la fois le mythe de l'homme chasseur a été remis en question des années 70 à travers des études d'archéozoologie sur les os des animaux qui ont été chassés, en tout cas qui ont été ramenés sur les sites pour consommation. Donc à ce moment-là, on s'est rendu compte en fait que les animaux étaient finalement peu chassés et beaucoup plus charognés. Alors le charognage, c'est récupérer des carcasses d'animaux morts, tués par d'autres espèces. Voilà. Donc finalement, il n'y avait pas d'homme chasseur, mais plutôt un homme qui faisait de la récup de viande au paléo. Et voilà. Donc voilà, le mythe de l'homme chasseur, il s'est quand même profondément... il a pris un coup. Et voilà.
Donc, par exemple, l'idée de l'homme qui chasse, qui va partir plusieurs jours comme ça, chasser, etc., pendant que la femme reste à la caverne, accueillir des baies sauvages avec ses enfants qui pilulent à côté d'elle, ça, c'est pas vrai.
Ça aussi, c'est faux. Alors ça, c'est aussi c'est lié à l'imagerie qu'on a créée autour de la préhistoire, qui date encore une fois du début du siècle. On voit notamment pas mal de représentations, de gravures, etc., de femmes entourées d'enfants, qui, à la limite, oui, elles peuvent faire la cuisine, mais je crois pas grand-chose d'autre. Et donc l'homme, effectivement, qui part en chasse. Alors, au même moment que le mythe de l'homme chasseur a un peu souffert, il y a des études ethnographiques qui ont renouvelé aussi l'image des femmes qu'on avait pour ces périodes. On s'est rendu compte que les femmes effectuaient énormément de travail au niveau de la collecte des baies, des racines, des fruits, des légumes, etc. Et surtout que ces aliments correspondait à la majorité de l'alimentation du groupe, la viande constituant une petite partie. Du coup, on s'est rendu compte avec ces études que les femmes avaient, en plus de la charge des enfants, un rôle extrêmement actif au niveau de la survie du groupe. Ensuite, il y a toute une tradition de préhistoriennes féministes aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, qui ont aussi renouvelé beaucoup l'image qu'on avait des femmes préhistoriques et qui ont commencé à proposer des interprétations et des scénarios d'hominisation féministe pour contrebalancer tous ceux qui avaient été proposés jusque-là, qui étaient extrêmement masculinistes. Donc à la fois, ce sont des scénarios qui reposent pas forcément sur des preuves archéologiques attestées, mais qui fonctionnent en tout cas sur les mêmes bases que les scénarios précédents. Voilà. Du coup, elles ont proposé une image des femmes préhistoriques capables d'être artistes, donc de peindre sur les parois des grottes, de graver, de sculpter, etc. Elles ont proposé une image des femmes qui taillaient, qui étaient en mesure de tailler. Alors, elles ont été relativement cool dans la mesure où elles ont dit qu'elles taillaient des petits outils, que c'était des petites choses pas très intéressantes qui servaient en tout cas au travail domestique des femmes sur les sites, sur les lieux d'habitat. Donc les grandes lames, etc., c'était pas le travail encore des femmes, mais bon, quand même, les femmes devenaient artistes, devenaient tailleuses. Elles ont aussi parlé de la chasse aux petits animaux et au gibier, qui était tout à fait accessible aux femmes, y compris avec la charge des enfants, et aussi toutes les activités traditionnellement réservées aux femmes leur ont été accordées pour la préhistoire, à savoir le tissage, la couture, le tannage des peaux, la vannerie, etc., ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a longtemps supposé que les femmes étaient inactives en leur attribuant une supposée infériorité physique, anatomique, liée à la maternité et liée à l'élevage des enfants. Ça a été l'argument majeur avancé pour expliquer pourquoi les femmes étaient invisibles ou pourquoi elles ne pouvaient servir à rien dans un groupe ou pourquoi aucune innovation biologique ou sociale n'était de leur fait. Il y a aussi, y compris les féministes françaises assez connues, comme Françoise L'Héritier, pour défendre ce type d'interprétation. Donc on dit que les femmes seraient inférieures physiquement à cause de l'élevage des enfants. Beaucoup, beaucoup de travaux depuis montrent à quel point ces hypothèses tiennent à rien et se calent à des représentations actuelles. On peut penser aux travaux de Priscille Touraille, par exemple, qui met extrêmement bien en lumière l'idée selon laquelle l'infériorité physique des femmes serait peut-être beaucoup plus liée à la pression culturelle et sociale du genre qu'à une quelconque infériorité liée à la maternité, à la grossesse. Donc voilà.
Oui, tu veux dire qu'en fait, le fait qu'elles fassent des enfants et qu'elles aient des grossesses, ça les empêchait en rien en fait, d'être exploitées, de continuer à travailler, et que, voire même, elles travaillaient peut-être même plus que les hommes.
Alors, oui, c'est un petit peu délicat parce que pour moi, si on reste dans les conceptions traditionnelles, genrées, oui, on peut dire que les femmes, même avec les enfants, étaient capables de faire tel et tel et tel type d'activité. Alors, ça reste des activités moins nobles que les activités de chasse ou que d'autres activités. Donc, c'est toujours des activités subalternes qu'on donne aux femmes à cause de ça. Maintenant, si on essaye un petit peu d'élargir nos horizons et qu'on essaye de vraiment de pas se référer au genre d'aujourd'hui, je pense que les groupes de chasseurs-cueilleurs de l'époque ne pouvaient pas se permettre de faire l'économie d'individus participant activement à la vie du groupe. Je pense que les femmes, c'est des petits groupes quand même, hein, en paléolithique. Donc l'apport de tous est le bienvenu, même des enfants, je pense. D'ailleurs, de plus en plus, on trouve les traces des enfants sur les sites, et ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Mais du coup...
On ne peut pas se permettre de perdre un individu, tu disais.
Voilà, c'est ça. On ne peut pas se permettre de perdre un individu. Et l'apport de tous est important. Et je ne pense pas qu'il n'y a rien qui pour permettre d'attester au niveau des squelettes qu'on retrouve une infériorité des femmes. Au contraire, des travaux plus ou moins récents, autour des années 2000, ont montré que sur un site proto-historique, la seule tombe qui a été retrouvée, c'était une tombe de tailleur. De pierre, donc de quelqu'un qui pratiquait la taille de la pierre. Et on s'est rendu compte, avec des analyses un petit peu plus poussées, que c'était la tombe d'une femme, incontestablement. Et on doit avoir quoi ? Alors, je ne suis pas très sûre de moi sur ce coup-là, il faudra vérifier, mais il me semble qu'on a 3 ou 4 tombes de tailleurs, même pas, peut-être 2 ou 3 tombes de tailleurs dans le monde, pas plus. Et dans le taille, il y en a 1 ou 2 qui seraient, une sûre, c'est une femme, l'autre, il y a encore un doute. Donc je pense que c'est en évacuant les représentations qu'on a du genre et des rapports de genre et des rapports de sexe actuels qu'on arrivera véritablement à percer un petit peu plus l'imaginaire, les modes de vie et la vie sociale des paléolithiques.
Parce que alors il y a une chercheuse qui s'appelle Paola Tabet qui a écrit un article en 79 qui est assez intéressant qui s'appelle des instruments, des outils et des armes, et elle parle en fait alors elle dit que la division sexuelle du travail en fait qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les hommes qui utilisent plus des objets techniques qui sont plus à la pointe de cette société, etc., et les femmes qui font des activités plus monotones, etc., et bien ça daterait de la préhistoire. Parce qu'il y aurait eu en fait un monopole en fait de la part des hommes sur les outils et les armes. En fait, que les outils et les armes auraient été confisqués par les hommes aux femmes. Alors, qu'est-ce que tu penses des travaux de cette chercheuse et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ?
Alors, moi j'apprécie que d'un point de vue scientifique, ce qu'a fait Paola Tabet. Alors effectivement, c'est autour des années 70-80. Elle a passablement, elle et d'autres, chamboulé vraiment la façon qu'on avait de voir la division sexuelle du travail. Jusqu'à elle, on disait que les femmes n'avaient pas accès aux armes et aux outils parce qu'elles n'avaient pas accès à la chasse. Alors, il faut se rendre compte que ce sont des activités extrêmement importantes en préhistoire. Exclure les femmes de ce type d'activité technique ou sociale, c'est révélateur d'une pensée. Pendant très longtemps, on a interprété le fait que les femmes ne pouvaient pas chasser à cause du tabou lié au sang. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, c'est aussi des interprétations pour moi qui sont fortement influencées par la psychanalyse. Mais bon, voilà, il y a une théorie qui dit que les femmes n'auraient pas accès à la chasse à cause du tabou du sang, de la blessure de l'animal, qui ne pourrait pas être mélangée de façon symbolique à son propre sang des menstrues. Je la fais très courte et très simple. Donc voilà. Donc les femmes ne pouvaient pas se permettre d'être au contact de ce sang un peu impur. C'est pour ça que les travaux de Tabet sont particulièrement intéressants. Parce que donc on disait jusque-là que la répartition, la division genrée du travail était une répartition égalitaire, complémentaire, équilibrée, qui favorisait la survie et l'évolution de l'espèce. La preuve, regardez aujourd'hui, c'est la répartition sexuelle du travail nous a permis d'atteindre ce niveau de technologie, et c'est le système qui a le plus perduré puisqu'il est encore en cours aujourd'hui et que c'est le plus viable. Bon, c'est raccourci. L'évolution est aléatoire, déjà. En tout cas, la sélection... Enfin, bon, bref. Du coup, Tabet, quand elle arrive et qu'elle dit que non, il faut inverser le rapport et que c'est pas en fonction de l'activité qu'il y a répartition et division du travail, mais en fonction des outils à utiliser, des outils et des armes. Ça veut dire que plus l'outil va être technique, plus l'arme va être technique, plus elle va être dangereuse, porteuse de pouvoir, de sens, de domination, plus elle va être réquisitionnée par les hommes. Et elle dit même que chaque nouvelle innovation technologique est réquisitionnée par les hommes, ce qui leur permet de contrôler, de posséder le pouvoir, de le conserver, de le garder et d'en exclure les femmes.
D'accord, alors merci pour ces analyses sur la répartition sexuelle du travail. C'est encore des choses, des questions en chantier, j'ai l'impression, dans le domaine de la préhistoire. Mais ça nous a déjà un petit peu plus éclairé sur cette question. Et puis, on va faire une autre petite pause musicale que tu vas nous présenter avant de continuer sur le sujet.
Et ben là, c'est Brigitte Fontaine. J'aime bien cette chanson, vous allez sûrement comprendre pourquoi à la fin de la chanson.
Je bois de la pisse de vache. Moi, je mange de la bouse de vache. Y a bien du pain blanc, mais c'est pour le patron. Moi, je bois de la pisse de vache. Y a bien du vin blanc, mais c'est pour le patron.
Moi, je. Olefnek, Sensneit, le crône, Olefnek.
Moi aussi, ils m'ont vendu pendant des siècles. Moi aussi.
Olefnek, lire sa machine, dit Lusinson, Olefnek.
Moi aussi, j'ai été machine dans leurs usines. Moi aussi.
Nenyi, Moudi, Sarnek, Hakmoudarloir, Fesmadavror.
Ils m'ont dit, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure quand ça me chantera.
Nenyi, Moudi, Deljisonek, Hakmoudarirasatsrazot.
Ils m'ont dit, donne-moi ton corps, je te donnerai un os à ronger.
Nanyi, Moudi, Vamnonek, Akmoudar, le cachet d'aspirine.
Ils m'ont dit, donne-moi ton sang, je te donnerai un cachet d'aspirine.
Oulafnek, Oulafnek, Oulafnek.
Oulafnek, Nanying, Oulafnek, Nanying.
Oulafnek,
Nanying, Oulafnek, Nanying.
Werying, Swerayen. C'est de voir de nous, c'est de voir de nous. Fren, il coule. Weyernen, weryin, l'ouch et chouawan. Gweder,
Ils
m'ont crevé les yeux et ils m'ont raconté le film après.
Ils
m'ont mise dans une cage et ils m'ont dit tu voles bas après.
Ils m'ont écrasé et ils m'ont dit t'es une sale bête après.
Oulafnek, Oulafnek, Win Hamlar.
Oulafnek, Kassin Hamlar, Soura Zayona Sahvivi.
Moi aussi, mon amour. C'est fini, mon amour.
Aklana, Kassin Hamlar.
Nous voici, mon amour.
Aklana, Sahvivi.
Aklana, Win Hamlar.
Aklana, Win Hamlar.
Moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est fini, nous voici, mon amour.
À genoux, papa, moi aussi. Qu'est-ce que tu penses de la sélection naturelle?
Lâche-moi.
On vient d'écouter un morceau de Brigitte Fontaine qui finit sur l'évolution de l'espèce, c'est ça?
Sur la sélection naturelle.
Et
j'aime bien ce petit passage, parce que je trouve que c'est un petit peu l'image qu'on a de la sélection naturelle aujourd'hui, à savoir la domination du plus fort sur le plus faible, alors que c'est absolument pas ça dans les faits.
Et c'est donc Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope sur la préhistoire. Et... au niveau justement de ces histoires de sélection naturelle, mais aussi par exemple d'évolution de l'espèce, on nous apprend en général que l'évolution de l'espèce, et entre autres par exemple les évolutions morphologiques, les changements qui peuvent se faire au cours de temps, ça va toujours dans le sens de la survie de l'espèce, donc entre autres de la procréation. Est-ce qu'au niveau, par exemple, des changements de morphologie des femmes, on peut affirmer ça ?
Pas tout à fait. Surtout qu'il y a des travaux récents qui permettent de nuancer beaucoup plus ces questions. Donc effectivement, traditionnellement, on a toujours interprété l'évolution anatomique des femmes, étudiée par la paléontologie humaine essentiellement, comme étant systématiquement liée donc à la survie de l'espèce, et comme si les évolutions allaient continuellement favoriser la procréation. Alors, pendant longtemps, donc, on a pensé que la bipédie, par exemple, avait influencé sur la taille du bassin, sur l'étroitesse du bassin, et avait donc favorisé, et que la bipédie était intervenue pour favoriser la reproduction et favoriser l'accouchement. Récemment, des travaux ont permis de montrer que finalement la bipédie aurait permis donc de marcher sur ses deux jambes, de se redresser, donc de libérer les mains ne servaient plus donc à marcher à quatre pattes. Et le fait d'avoir libéré ses mains a permis aussi à la face, au visage, de se libérer des activités qu'elle faisait jusque-là. C'est-à-dire que dans les squelettes qu'on voit à ces époques, on se rend compte qu'on a une énorme musculature au niveau de la mâchoire qui ne peut pas remonter jusqu'au sommet du crâne, parce que c'est la bouche qui servait de main, grosso modo. En tout cas, c'est des interprétations qui ont été faites jusque-là. Moi, je retranscris, je retransmets. Mais donc, la bouche, la mâchoire servait à beaucoup d'activités, puisque les mains étaient prises. Donc, une fois que les mains se sont libérées, la mâchoire et notamment tous les muscles qu'il y avait au niveau de la face ont permis de diminuer, ce qui a permis une expansion du cerveau. Et donc, au contraire, ça a favorisé donc le cerveau, mais ça a défavorisé les possibilités de procréation des femmes. C'est-à-dire que donc ça a permis une expansion du cerveau, mais en contrepartie, ça a rendu le bassin des femmes beaucoup plus étroit, et donc ça a rendu au contraire l'accouchement bien plus difficile. L'espèce humaine est une des espèces qui a l'accouchement le plus difficile des mammifères. Le fœtus a du coup subi lui aussi différentes adaptations par rapport à cause de la bipédie. Non seulement la durée de
gestation.
Merci. La durée de gestation est devenue bien plus courte que pour les autres mammifères, ou en tout cas pour le genre humain qui précédait. Donc la période de gestation est devenue plus courte pour que la taille du crâne du fœtus reste petite et que pour permettre l'expulsion du corps. L'expulsion du corps est assez difficile parce qu'elle nécessite une double rotation. Pour faire simple, le fœtus ne peut pas peut passer par le bassin que dans une position bien particulière, on va dire. Dans une, puis rotation, et dans une autre. Donc on peut vraiment pas se louper. Donc tout ça pour dire que on se rend compte que les innovations biologiques ont beaucoup plus favorisé le cerveau des humains que la procréation, et qu'au contraire, ça aurait pu mettre en danger l'espèce. Et oui, et je voulais juste faire une petite parenthèse, c'est qu'il ne faut pas confondre la survie de l'espèce le fait que les femmes procréent ou se reproduisent, permettre la reproduction, avec la nécessité pour un individu de le faire. C'est tout à fait différent. Si un groupe a besoin si un groupe social a besoin d'une descendance ou de se perpétuer dans le temps, c'est tout à fait différent qu'un individu qui ressentirait la nécessité de se reproduire. J'ai été claire ?
Ouais, ça paraît clair. Effectivement,
faut pas confondre l'individu et le groupe. Voilà. Même si le groupe peut avoir envie de descendants, la femme n'a pas forcément envie de procréer. Oui, ce n'est pas son instinct. Elle n'a pas une poussée irrépressible qui lui donnerait envie absolument de...
D'enfanter.
Voilà.
Oui, ça remet en cause aussi que cet instinct irrépressible lui viendrait de la préhistoire, parce que l'évolution irréversible, vu qu'on voit que justement l'évolution, elle a plus favorisé son intelligence que c'est la procréation.
Exactement, c'est quand même fort. On a favorisé le cerveau des femmes en dépit de son bassin.
Et sinon, alors toujours sur les représentations, on regardait hier, je crois, c'est pour le coup un dessin assez récent qui illustrait, je crois, un livre sur la préhistoire et qui représente du coup un homme plus grand qui tient du coup une femme préhistorique plus petite que lui avec voilà un corps plus fragile. Il la tient par les épaules, elle le tient par la taille. Enfin un peu une espèce de représentation classique mais reportée à la préhistoire du couple hétérosexuel homme-femme. Mais alors est-ce qu'on peut par exemple affirmer que les hommes à la préhistoire étaient plus grands que les femmes ?
Question délicate. Alors, les différences de stature entre hommes et femmes, on appelle ça du dimorphisme sexuel. Il y a différents critères, il y a différents aspects au dimorphisme sexuel. Encore une fois, ce n'est pas l'ontologue qui étudie ce type de questions généralement. Et donc, dans le dimorphisme sexuel, c'est les différences morphologiques entre les hommes et les femmes. Qui sont censés se retrouver, peu importe les cultures, les régions, les groupes, etc. Donc dedans, oui, il y a la différence de stature, de taille. Il y a les différents critères sont variables en fonction des chercheurs, en fonction des courants, en fonction des périodes. Mais, et justement, il y a beaucoup de conflits comme pour pouvoir définir un humain. Qu'est-ce qu'un humain ? Il y a beaucoup de débats sur ces questions aujourd'hui. On est passé par différents critères pour le... Pour le dimorphisme, c'est un peu pareil. Donc, on a la différence de stature. Il y en a qui peuvent mettre la pilosité dedans. Il y en a qui peuvent mettre la masse musculaire. Il y en a qui peuvent mettre le... Ah oui, je pensais aux mains, en fait. Aux mains, il y a aussi des gens qui sont vraisemblablement qui sont capables de différencier des mains d'hommes et des mains de femmes, ce qui a pu nous être utile dans l'analyse des mains en négatif sur les parois des grottes ornées qu'on retrouve dans le sud-ouest de la France. Par exemple, on a longtemps interprété les grottes ornées comme étant interdites d'accès aux femmes et aux enfants, que c'était des représentations uniquement réalisées par les hommes et pour les hommes. Il y a des chercheurs et des études récentes qui ont montré que des mains étaient féminines, alors que ce qui est assez marrant, c'est qu'on les a longtemps considérées comme des mains d'enfants, mais non, c'est des mains de femmes. Et du coup, ce qui montrait que les femmes ont pu rentrer dans la grotte, ont pu peindre elles-mêmes. Que leur corps peut être aussi représenté sur ces parois, ça a changé aussi beaucoup les idées qu'on avait. Alors sur la différence de stature, c'est assez délicat. Souvent, on l'a fait reposer sur l'infériorité donc des femmes physiques. Qui se serait manifestée au cours du temps. Encore une fois, il y a des travaux plus récents qui interpréterait le dimorphisme comme étant le résultat de pressions culturelles sur le corps des femmes, donc de pressions de genre sur le corps des femmes, et que ça aurait été au fur et à mesure du temps des pressions écologiques, environnementales, conditions environnementales et écologiques et climatiques, etc., beaucoup plus des pressions culturelles et sociales liées au groupe. Et ça, c'est quelque chose que Darwin disait déjà dans la sélection naturelle et dans la sélection sexuelle aussi, parce qu'il a fait un bouquin sur la sélection sexuelle aussi. Et donc, voilà, on serait beaucoup plus amené aujourd'hui à dire que c'est le genre qui aurait donc une antécédence du genre sur le sexe et que le genre aurait beaucoup plus marqué les squelettes, les statures et le corps des femmes et donc aussi celui des hommes.
Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple en fait pour illustrer ce propos, par exemple par rapport à l'alimentation, des choses comme ça ?
Alors là, c'est encore une fois les travaux de Priscille Touraille. Qui a écrit une thèse
Homme grand, femme petite, une évolution coûteuse.
Voilà, qui a été publiée en 2009, il me semble, que je conseille évidemment à tout le monde. Du coup, c'est des exemples qu'elle reprend, qu'elle prend elle-même. Donc, par exemple, l'alimentation, effectivement. Ce qu'on va ingérer, comment on va se nourrir, ça va évidemment influencer notre morphologie et ça va surtout influencer, enfin, entre autres, influencé le squelette de l'individu. Et ne serait-ce que pour des périodes récentes, on se rend compte que les squelettes sont extrêmement marqués, les squelettes uniquement des femmes sont extrêmement marqués, par exemple dans les périodes de disette ou de famine, puisque c'est elles qui sont les plus sous-nourries. On est capable, par exemple sur des sépultures du Moyen-Âge, de retrouver une période de famine, parce que dans les sépultures, on verra que les femmes sont sous-alimentées par rapport aux hommes, et que ça laisse véritablement des traces dans le squelette. Comme une activité physique que tu vas faire tout au long de ta vie va laisser une empreinte et une marque sur ton squelette. Ce que tu vas manger, c'est un petit peu la même chose. Et donc, on se rend compte que les différentes formes d'alimentation des femmes qui se retrouvent souvent être inférieures à celles des hommes en termes d'apport de protéines, par exemple, et essentiellement en termes d'apport de protéines qui favorisent le développement du cerveau, etc. On se rend compte qu'elles sont les trois quarts du temps sous-alimentées, ou alors qu'elles ont toujours les moins bonnes parties d'un aliment, etc. Ce qui a effectivement marqué leur corps et ce qui a pu créer un dimorphisme sexuel aussi. Donc, encore une fois, on se retrouve dans le genre recréé du dimorphisme.
Dans ce livre, en fait, un des trucs sur lesquels elle se penche aussi, c'est que en tout cas, la plupart des sociétés actuelles, un homme va préférer pour compagne et donc aussi pour avoir des enfants une femme petite. Une femme va préférer un homme plus grand. Or, en fait, ça irait pas justement vraiment dans le sens d'une meilleure procréation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
C'est-à-dire dans le sens d'une meilleure procréation.
C'est-à-dire que en fait, plus une femme est petite, plus son bassin est petit, lui aussi étroit. Donc, au niveau des chances, en tout cas, si on n'a pas accès à un accouchement médicalisé, plus une femme est grande, plus elle a un bassin grand, et moins elle a de risques, par exemple, de mourir en couche ou d'avoir des problèmes au niveau de l'accouchement. Donc, en fait, une femme grande, statistiquement, ça risque de mieux se passer l'accouchement, et que donc, au niveau de la procréation et de la transmission aussi des gènes de l'homme, par exemple. S'il choisissait sa compagne pour... parce que c'est un des trucs, par exemple, qui est dit dans les analyses, en psychologie, ça va être que l'homme choisit avant tout sa compagne pour la transmission de ses gènes, donc pour la procréation et avoir des beaux enfants, etc.
Alors, aujourd'hui, on dit plus que ce sont les femmes qui choisissent les hommes. Que c'est elle qui pratique la sélection sexuelle. C'est un domaine qui a été peu travaillé, du coup je ne vais pas en dire plus, mais vraisemblablement ça aurait été les femmes qui sélectionnent leur partenaire de reproduction pour effectivement avoir une descendance réussie et viable. Effectivement, on dit que les hommes grands préfèrent les femmes petites, ou en tout cas on constate ça, que les hommes grands ou que les femmes petites préfèrent sélectionner des hommes grands. Ce qui, du coup, vraisemblablement mettrait en danger la procréation et la reproduction et l'accouchement. Et bizarrement, on n'a pas sélectionné des femmes grandes qui auraient beaucoup plus facilité l'accouchement au cours de temps. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui reste assez contradictoire et qui mériterait d'être expliqué.
Oui, donc ça montrerait en fait que si on prend au niveau de l'évolution, souvent on dit que on va chercher des explications biologiques et par exemple à la préhistoire à cause de l'évolution de l'espèce pour expliquer des inégalités sociales. Et là, par exemple, si on se réfère sur les femmes qui seraient sous-nourries, ça serait plutôt des explications sociales qu'entraînerait du biologique, par exemple des femmes plus petites ou qui ont été moins sélectionnées parce que... l'homme, pour un rapport de domination, par exemple, préfère une femme plus petite que lui. Et du coup, au bout d'un moment, ça fait que les femmes deviennent plus petites. En gros, c'est un peu ça, la théorie qu'elle avance.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Et du coup, j'ai l'impression que ça remet en cause, justement, toutes les analyses psychologiques qui vont chercher, par exemple, dans des schémas préhistoriques, des explications, en fait, qui seraient inscrites dans le cerveau instinctivement. Comme tout à l'heure, par exemple, je trouve que tu as pris cet exemple du viol. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces psychologies qu'on appelle psychologie évolutive ?
C'est la psychologie évolutionniste. C'est une discipline des années 70 à peu près, qui s'est énormément développée dans les pays anglo-saxons et qui se développe énormément en France depuis 10 ans. Et du coup, la psychologie évolutionniste consiste à expliquer les comportements instinctifs violents, dominateurs des hommes et les comportements tendres, doux, maternants et ce que tu veux des femmes, justement, grâce à la préhistoire, qui se retrouve être une mine d'explications et de justifications pour les psychologues, pour la psychologie évolutionniste. Alors, ce qu'ils disent, c'est un peu que les femmes et les hommes, que les comportements instinctifs des uns et des autres, que ces comportements genrés déjà seraient des comportements instinctifs, que ces comportements instinctifs se retrouveraient en préhistoire, et qu'ils auraient perduré parce que ça aurait été les meilleurs pour la survie de l'espèce encore une fois, puisqu'on les retrouve aujourd'hui. Et que du coup, ces comportements sociaux auraient petit à petit, au cours du temps, forgé des structures cérébrales genrées au niveau du cerveau des humains. Donc l'exemple le plus connu aujourd'hui de la psychologie, un peu des relents comme ça de psychologie évolutionniste dans des bouquins de vulgarisation, c'est ce qu'on... Par exemple, le bouquin « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », ça c'est tout à fait de la psychologie évolutionniste, puisque comme on aurait forgé des structures cérébrales genrées, ceci explique que les femmes ont une plasticité du cerveau et des zones du cerveau beaucoup moins développées pour tel ou tel type d'activité. Alors ça, mais après le choix est large, hein. Alors, on a l'embarras du choix en fonction de qui on lit, l'orientation, lire une carte, n'importe quoi. Du coup, voilà, c'est et du coup, ce qui veut dire quand même que le genre aurait forgé des structures cérébrales.
Et par exemple, ça c'est assez facilement, enfin cette théorie-là c'est assez facilement démontable en préhistoire ou c'est très suivi ?
Oh non, en préhistoire c'est plutôt inexistant. Alors autant l'évolutionnisme en anthropologie, autant d'autres disciplines comme ça vont marquer la préhistoire ou la psychanalyse vont marquer les débuts de la préhistoire, autant la psychologie évolutionniste, ça marque plus la paléontologie que les préhistoriens ou les préhistoriennes. Oui, c'est plutôt facilement démontable dans la mesure où, de toutes les manières, en neurosciences, il n'y a aucune trace de zone travaillée plus spécifiquement en fonction du genre, quand même. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense à Catherine Vidal, qui arrivent parfaitement à le démontrer.
Du coup, au niveau des sciences du cerveau.
Par exemple, voilà, au niveau des sciences du cerveau et neurologiques. Ensuite, au niveau de la préhistoire, très clairement, les détenteurs de ce courant sont pas des préhistoriens et sous-estiment incroyablement les capacités cognitives, sociales, culturelles, biologiques des hommes et des femmes du paléolithique. Ce sont des gens tout à fait comme nous, ils ont la même morphologie, ils ont une taille du cerveau relativement correcte, ils ont des rapports sociaux tout à fait communs aux nôtres. Non. En tout cas, qui sont pas dans des rapports aussi genrés qu'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a vraiment une vision aussi des humains préhistoriques extrêmement, extrêmement sauvageonnes et que les nombreuses fouilles nous permettent de contredire.
Ok. Eh bien, avant de répondre à la question que tout le monde se pose, peut-on dire que Lucie était une femme ? On va faire une pause musicale.
Pareil, ce son, c'est un peu une case dédiée. À tous ceux qui se reconnaîtront et qui m'agacent quand je lis leurs travaux.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une dame dans ma veste.
Une dame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une dame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste. Chez toi, je me poste. Te piste, t'accoste. Ensuite, te moleste. Te frappe, te brusque. Tu flippes et tu masques la piste. Dans ton froc et ta grippe à mes basques. Passe tous mes disques ou sinon je te confisque. Ces bijoux grotesques et les dents qu'il te reste. J'insiste, ajuste ma lame dans ton buste. Ne fais plus un geste. Ouais, je sais, c'est injuste. Tu pleures, t'es triste. Qui parle de désastre? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ton parrain est ministre. Je m'en tape complètement. Quand je veux, je te dévaste. Avec ces grandes calottes que je t'administre. Putain d'opportuniste, quasi esclavagiste. Toi, t'es qui pour me rayer de la playlist? Tu disais comme ça que mon rap est néfaste. Tiens, prends ça, c'est lui qui t'encastre. J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
je m'incruste. Tu cries, tu résistes, mais trop tard tu dégustes. Petit journaliste de mon cul, tu t'offusques. Mais je t'avais dit, quand je veux, je te débusque. T'as pris trop de risques en critiquant mes textes. Mon nom, mon crew, mon style, ma casse. T'as fait l'humoriste et maintenant je te séquestre. Regarde quel contraste, t'as l'air moins enthousiaste. Ne fais pas l'autiste, car ceci n'est qu'un zeste. Un aperçu modeste des techniques que je teste. Depuis plusieurs mois, tu étais sur ma liste. Je t'ai laissé ta chance, allez, sois réaliste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
Hé, hey, toi l'artiste, viens, viens. Le grand, le robuste. Ouais, oui, oui, ouais. Toi là-bas, appuyé sur l'arbuste. Oh, oh. Tu veux jouer les rustres, mais si tu persistes, je te blesse à l'aide de l'instrument de ton bassiste. On dit que tu pèses contre moi, me déteste, et raconte partout que je suis intégriste, parce que j'aime le rap de puristes qui empestent, non pas ton sale son fait avec des choristes. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Où t'as mis ton vice? T'as plus de face, et en plus, y'a ton corps qui se crispe, et puis tu rousses pète car tu prends une vraie rouste. Ne fais pas la tête si tu veux, fais les boosts. Boost, glisse, oui, le monde est vaste. Ramasse ton pianiste et son violeuse de raste. Avant que je te délaisse de tes bagues, de ton poste, de ta veste, et te laisse en galère, garde l'est.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
En falche, papy. Viens pas tester. Hein? Les plus détestés. Hein? Tu peux pas contester. En falche, en falche. Cassé. Ha!
Sinon, on peut partir en passer.
Vous êtes sur Dégenré, vous venez d'écouter Kazé et on ne sait pas encore si on va partir en freestyle à la fin. Mais nous sommes toujours avec Laetoli qui nous parle de genre et de préhistoire. Alors, on a bien compris que c'est hyper important de pouvoir voir le sexe des squelettes. Par exemple, ça peut permettre de montrer que les femmes en préhistoire taillaient des silex ou que les femmes avaient accès aux grottes ornées, par exemple. Donc je vois bien l'importance de déterminer le sexe d'un squelette lors de fouilles. Mais on voudrait savoir, Lucie, notre ancêtre la plus connue du moment, en fait, est-ce qu'on peut savoir vraiment si c'était une femme ?
Donc du coup, deux choses. À la fois, comment faire pour attribuer un sexe à un squelette qu'on découvre ? Et du coup, bah, Lucie et l'Australopithèque. Alors, c'est assez difficile, c'est sûr, surtout pour les périodes les plus anciennes, de pouvoir, de façon formelle, établir le sexe comme l'âge de l'individu qu'on a retrouvé. Ça demande beaucoup de précision et de précision méthodologique. Pour pouvoir diagnostiquer le sexe d'un squelette, il faut déjà être en mesure d'avoir des référentiels connus pour son groupe à une période et à une époque donnée. C'est-à-dire que, par exemple, pour un individu du paléolithique supérieur, à l'époque on va dire, bon, plus récente du Magdalénien, il nous faudrait plusieurs squelettes référencés sur lesquels ont été identifiés des hommes jeunes, des hommes vieux, des femmes vieilles, des femmes jeunes, qui nous permettent d'être des espèces de extrémités dans les extrêmes de sexe, on va dire, voilà, sexe femelle, sexe mâle. Donc déjà, il nous faut beaucoup de référentiels pour pouvoir attribuer de façon formelle un sexe à un individu. Ce qui n'est vraiment pas le cas pour les périodes anciennes. On roule avec très très peu de fossiles, on en a découvert très peu. Ils sont extrêmement mal conservés, en mauvais état, fragmentaires, etc. Donc c'est vraiment compliqué. On a souvent parlé de squelettes femelles sans pour autant en être vraiment vraiment sûr. Il y a d'ailleurs beaucoup d'entre eux qui ont été réinterprétés et réévalués, enfin beaucoup, certains d'entre eux qui ont été réévalués et réinterprétés depuis. L'exemple de Lucie, c'est un bon exemple parce que il y a beaucoup de gens qui se demandent si ce serait pas finalement Lucien. On se rend compte que le squelette est dans un état extrêmement fragmentaire. Donc c'est une Australopithèque afarensis autour de 3-4 millions d'années, Lucie ou Lucien. Et du coup, donc son squelette est quand même super fragmentaire. On arrive à déterminer quand même une diagnose de sexe à travers l'os coxal, à travers des mesures autour du bassin. C'est vraiment cette partie-là du corps qui leur permet de savoir, parce qu'encore une fois, c'est pas les préhistoriens qui font ça, c'est les paléontologues ou les paléanthropologues. Donc c'est autour de l'os coxal et du bassin qu'on peut permettre une diagnose. Et en l'occurrence, Lucie n'est pas complète à ce niveau-là. Et surtout, ce qui a un petit peu mis un peu posé le doute, c'est que la diagnose de sexe s'est faite super rapidement, avant même toute étude. Du sujet, toute étude anthropologique du sujet, puisque dans les rapports de fouilles de Coppens et de je sais plus, parce que c'est une équipe française et étrangère, mais je sais plus d'où, qui ont découvert, c'est une équipe américaine, il me semble.
Est-ce que c'est à cause des Beatles ?
Exactement. Voilà, il y a quand même des gens, et eux-mêmes l'ont dit dans leur, plusieurs fois, qu'il y avait la chanson des Beatles qui passait à la radio à ce moment-là, au moment où ils ont découvert Lucie, et qu'ils ont du coup choisi de l'appeler Lucie. Donc, bon, voilà, je pense que tout est dit. À partir de ce moment-là, je crois qu'il vaudrait un petit peu revoir le squelette, si c'est possible de le faire. Et voilà. Et ce qui est assez étonnant finalement, c'est que moi je trouve très personnellement que Lucie, c'est quand même un des ancêtres qui a le plus marqué ces 10-20 dernières années, qu'on a appris à l'école, etc. Et le fait que l'ancêtre commun le plus connu à ce jour soit une femme, ça aussi, ça a quand même, encore une fois, je trouve, beaucoup plus rempli d'imaginaire l'existence des femmes que leur attribuer réellement une existence réelle, active, sociale, dans la vie concrète des camps à ces époques.
T'as envie de nous parler d'autre chose ?
Il nous reste du temps.
Un petit peu.
Un petit peu. Je sais pas, on pourrait peut-être discuter d'art, paléolithique, parce que d'art en préhistoire. Puisque c'est quand même un des aussi, on n'est pas rentré dans ce sujet-là, mais c'est quand même un des domaines de la préhistoire qui nous permet d'accéder aussi à l'humain et d'accéder aux femmes, puisqu'elles sont réputées invisibles sur un site archéologique, ce qui n'est pas... En tout cas, elles sont autant invisibles qu'un homme. Dans ces cas-là, si on part de ce principe-là, puisqu'il y a peu de choses dans une analyse spatiale d'un site qui peut te permettre de dire si c'est un homme ou une femme qui a pratiqué tel ou tel type d'activité. Pourtant, ça n'a pas empêché 99% des théories de dire que c'était les hommes qui les avaient pratiquées. Du coup, l'art, c'est quand même un moyen d'accès aux femmes qui est non négligeable. Je pense que vous connaissez tous les grottes peintes d'animaux. Type Gargasse, Lascaux, Cosquer, Chauvet, etc. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a eu beaucoup de représentations humaines sur les parois des grottes. Donc à côté des animaux, qui représentent peut-être 96% des figures, on a 4% d'humains. Et donc ça veut quand même dire que les hommes et les femmes du Paléolithique ont choisi de se représenter sur des parois. C'est quand même une iconographie particulière. Je pense que c'est pas tout à fait pareil de représenter un bison, un mammouth ou un cheval que de se représenter soi-même, et que dans ces représentations, il y a à la fois des codes de genre, en tout cas ce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, on interpréterait comme des codes de genre et des codes de sexe. Du coup, on a des hommes aussi qui sont représentés, très très peu, et on a énormément de femmes. Et toutes ces figurations féminines ont permis de... Pareil, durant ce siècle, de beaucoup plus aborder la question du matriarcat primitif, d'aborder la question de la religion, de la sacralité, d'une déesse mère omnipotente, omniprésente, etc. Et donc, encore une fois, on se retrouve avec des femmes qui n'ont pas forcément d'existence réelle et de densité d'humain, mais encore une fois, quelque chose de très imaginaire, fantasmé. Ce serait une déesse de la procréation, de la fertilité, de la fécondité, etc., etc. Au final, c'est pas une femme du quotidien Mais voilà, je pense que les figurations humaines, c'est quelque chose qui pourrait effectivement, en tout cas, apporter beaucoup.
Merci.
Une petite aparté peut-être juste sur l'histoire de la société matriarcale primitive. Est-ce que tu peux juste en 2 minutes nous dire si ça c'est un mythe ou une réalité ?
Je pense qu'on a toutes eu le fantasme, et moi je crois que je l'ai parfois encore, d'une société matriarcale, ou d'être moi-même une matriarche. Non, je plaisante, c'est une blague. En fait, moi, pour moi, je ne pense pas que ce soit véritablement possible de répondre à cette question. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de société matriarcale, que toutes les sociétés seraient patriarcales. Moi, là-dessus, je pense qu'en fait, c'est surtout la question de la méthodologie biaisée qui rentre beaucoup en compte. Les études ethnographiques qui ont permis de parler de société matriarcale ou patriarcale, d'ailleurs, n'ont pas forcément toutes les mêmes méthodologies et pas les mêmes critères, et que souvent, on a parlé de société matriarcale pour des sociétés matrilinéaires. On a parlé de société...
C'est quoi une société matrilinéaire ?
C'est quand dans un groupe, c'est la femme ou tous les liens de parenté issus de la lignée maternelle qui est dominante par rapport à... Bon, en gros, par rapport à la lignée paternelle. Donc, ça veut dire que c'est la femme ou les frères de la femme ou le père de la femme ou son grand-père, en tout cas pas le père ni toute sa lignée à lui qui est importante qui prime dans le groupe. Donc le problème du matriarcat, c'est qu'il a beaucoup été avancé par rapport justement aux statuettes dont je vous parlais, aux figurines féminines du paléosup qu'on a retrouvé en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, etc. Comme elles ont toujours été invisibles, qu'elles ont jamais existé pour les préhistoriens, que juste on ne savait pas trop ce qu'elles faisaient les femmes à cette époque, tac, on commence à les retrouver en abondance sur des sites avec des espèces de avec des espèces de conventions graphiques pour les représenter. On en a de l'Europe jusqu'à la Sibérie, de ces représentations de femmes, etc. Du coup, c'est elles qui ont permis de dire que ces statuettes, c'était finalement une espèce d'effigie déesse de la maternité, de la procréation, etc.
Des objets de culte.
Voilà, que c'était des objets de culte représentant la déesse mère qu'on retrouve jusqu'au néolithique. Et que du coup, le matriarcat aurait perduré jusqu'au néolithique et se sera arrêté. Alors, le néolithique, c'est la période juste après le paléolithique et le mésolithique. Bon, c'est une période juste après, on va dire, autour de moins de 10 000. Et du coup, le matriarcat se sera arrêté au néolithique, suivre par le patriarcat qui, lui, aurait été encore une fois plus adapté, plus viable et plus performant pour l'humanité. Donc, c'est là-dedans que moi, cette interprétation me gêne. C'est de dire que finalement, le matriarcat, s'il a disparu, c'est parce qu'il aurait été beaucoup moins efficace que les sociétés, que les structures patriarcales actuelles. Donc, on pourrait croire que ça pourrait être un petit peu avantageux pour nous, mais finalement, pas tant que ça.
D'accord.
Et moi, je me prononce pas sur cette question. J'aimerais que plutôt qu'il y ait des vraies méthodologies pour vraiment étudier les peuples chasseurs-cueilleurs ou autres qui sont hors de nos frontières.
Eh ben merci beaucoup Laetoli pour tout ce que tu nous as dit, apporté
avec
en fait
plaisir.
Sur ce sujet. Et du coup pour conclure cette émission spéciale donc sur le genre et la préhistoire, c'est important je pense de dire, tu l'as déjà dit, mais que les études sur le sujet en fait depuis les années 70 et même avant en fait, elles ont été marquées par une idéologie en fait qu'on peut qualifier de sexiste, qu'on peut qualifier de raciste. Et les chercheurs, anthropologues, paléontologues, etc., en fait, ils ont projeté beaucoup de fantasmes, beaucoup de leurs projections personnelles, de leur mode culturel, sur une période dont, en fait, on se rend compte en parlant avec toi et en l'étudiant, dont on sait, en fait, finalement, assez peu de choses. Et du coup, ces projections sur, par exemple, la faiblesse naturelle des femmes ou la force supposée des hommes, par exemple, ces projections, elles ont servi, en fait, à légitimer la domination masculine. par exemple, et à asseoir un peu plus le système patriarcal et tous les systèmes de domination en vigueur. Donc ça a alimenté en fait énormément de clichés, censés expliquer pourquoi les femmes étaient exploitées par les hommes encore aujourd'hui. Clichés qui nous semblent pas être des arguments en fait intéressants pour comprendre où on en est aujourd'hui. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut pas dire, c'est logique que ce soit comme ça parce que c'était déjà comme ça à la préhistoire. Voilà, exactement. Cet argument-là, il veut rien dire et je pense que c'est ce que tu nous as prouvé ce soir. Et alors heureusement, hein, y a des chercheuses féministes qui se sont emparées du sujet, de la préhistoire, de l'archéologie, etc. Et pour qu'on arrête de raconter en fait tout et n'importe quoi. Et peut-être ce qu'on peut en fait déplorer aujourd'hui, hein, c'est qu'elles sont pas nombreuses et que l'état des connaissances est encore très mauvais. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire.
Effectivement, on n'est pas nombreuses, mais les financements nous manquent cruellement.
Nous allons passer au petit agenda féministe. Alors, on n'a pas grand-chose à vous proposer là. On est un peu à court d'événements féministes. Alors, on va vous parler d'eux. De la bibliothèque féministe qui se situe à la BAF de Chemin des Alpins, qui a des permanences tous les lundis de 16h à 20h. C'est également à la bibliothèque féministe qu'on y fait les écoutes collectives de l'émission des genres que nous écoutons. Le lundi qui suit... C'est le lundi qui suit la programmation de l'émission. Donc ça veut dire lundi prochain, vous pouvez venir écouter ensemble l'émission à 19h. 30.
J'aurais bien aimé être
non,
là.
À 19h.
Ah oui, c'est à 19h. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'étincelle.
Juste pour préciser, c'est non mixte Meuf Gwyn Trans, à part le premier lundi du mois.
J'avais envie de vous parler de l'étincelle, qui est un atelier couture tricot crochet qui se situe à la Casanova, sur les quais du Drac.
À Fontaine.
À Fontaine. Voilà, c'est tous les mercredis de 16h à 20h et c'est vraiment super chouette. Vous pouvez écouter les émissions de Dégenrées sur le site radiorageuse.net et c'est sur ce site-là qu'on va vous mettre une bibliographie pour creuser encore plus le sujet. J'ai envie de vous parler aussi de la saga qui s'appelle Les Enfants de la Terre et c'est vraiment c'est la vie romancée d'une femme préhistorique qui est superbe et très forte et extraordinaire. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, lisez Les Enfants de la Terre. Je vous garantis pas que c'est un livre super féministe, mais voilà.
En tout cas, d'un point de vue scientifique, il me semble qu'il est fourni et fondé.
Et on va devoir se quitter. Tu peux nous dire un mot sur le morceau de la fin ?
Et ben voilà, c'est le morceau de la fin pour qu'il nous mette un peu de bonne humeur et qu'il nous fasse plaisir, quoi.
Et c'est Kia.
C'est Kia.
Ah, donc un jour, bonsoir.
Merci.
Au revoir.
All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Lick it good, suck this pussy just like you should. Right now, lick it good, suck this pussy just like you should. My neck, my back, lick my pussy and my crack. My neck, my back, lick my pussy and my crack. Lick my pussy and my crack. My neck, my back. Lick my pussy and my crack. My neck, my back. Lick my pussy and my crack. First you gotta put your neck into it. Don't stop, just do it, do it. Then you roll your tongue from the crack back to the front. Then you suck it all till I shake and come, nigga. Make sure I keep busting nuts, nigga. All over your face and stuff. Show me so much love. The best head comes from a thug. The dick good, thick, big and long. Slow fucking to the crack of dawn. On the edge, make your faces and stuff. Through the night, making so much love. Dead sleep when the sun comes up. So lick it now, lick it good. Lick this pussy just like you should. Come on. Right now, lick it good. Lick this pussy just like you should. My neck, my back, lick my pussy. But fuck that nigga, get on your knees. A bitch like me moans and screams.